Non, parce que les ondes, on pourrait se dire, les ondes, ça se mesure, tu vois. Mais ça, ça se mesure. Enfin, pour le moment, je dirais, on n'a pas les instruments pour mesurer ça. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, on les aura. Peut-être qu'un jour, en fait, on se rendra compte qu'il n'y a pas d'onde et que c'est juste, en fait, une vision de l'esprit et que c'est autre chose, en fait, qu'on est dans autre chose. J'en sais rien.
La science et la démarche intellectuelle, c'est pas une dictature que l'on place sur le monde. La science, c'est la seule démarche qu'on a inventée pour arriver à tomber d'accord sur quelque chose tous ensemble.
Donc on est à la frontière de choses qu'on ne connaît pas bien, qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on essaie de caractériser les uns ou les autres de différentes façons. Et les choses se mélangent un peu, mais il y a quand même une sorte de vérité, puisqu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des gens qui se soignent comme ça. On sait très bien que l'effet placebo, par exemple, soigne, enfin, que des gens se soignent simplement parce qu'on leur dit « tu peux te soigner ».
Sans cesse, en fait, je remets en doute ce que je fais, en fait. Et c'est en fait parce que l'autre qui est en face, qui est à je sais pas combien de kilomètres, puisque bon, je travaille aujourd'hui à distance, et tu vois, c'est ça en fait qui me sauve un peu. C'est le retour des gens qui fait que ça me permet d'y croire.
De toute façon, si ça se trouve, le vrai sera un jour faux. Donc on dit qu'il y a des choses qui sont vraisemblables, il y a des choses qui sont plus vraisemblables que d'autres. Quels que soient nos avis de départ, quelle que soit notre subjectivité, nos croyances, etc., on va tous tomber d'accord.
C'est quand même quelque chose qui n'est pas mesurable techniquement et scientifiquement, mais pourtant elle existe. Parce qu'elle est réelle, mais simplement parce qu'elle rentre pas dans des cases extrêmement connues, codifiées, cadrées. Et tant que ça rentre pas là-dedans, c'est comme si c'était inexistant par ailleurs.
Donnez-moi de bonnes raisons de penser ce que vous pensez. En fait, la démonstration scientifique, c'est ça, c'est si vous me donnez de bonnes raisons de penser ce que vous pensez, alors je tombe d'accord avec vous.
Bonjour.
Vous allez bien?
Bonjour.
Ça va bien?
Tout
va bien?
On garde nos distances.
Oui, bah oui, oui. On a amené ce qu'il faut pour que tout se passe bien.
Bonjour. Bienvenue.
Bonjour Pauline.
Bonjour.
Ça va?
Ça va et vous?
Ça va bien. Et donc ici, bah, comme je vous disais, on a déjà fait un travail énergétique sur la maison et sur le terrain.
Ah oui. Vas-y, ça prend peut-être non, puis...
Et donc à la suite de ce travail d'études géobiologiques, bah, on a posé deux pierres, une proche là, que vous voyez ici là, et une un peu plus loin, je ne sais pas si on la voit, voilà, elle est un peu derrière la piscine là-bas. C'était pour traiter deux rayonnements différents qui traversent la bâtisse.
Vous n'aviez pas fait le champ électromagnétique du coup dans la première étude?
Et non, parce que c'était que vraiment le volet, y avait un volet divisé, il y avait vraiment un volet haut parce que la demande initiale c'était ça, c'était de trouver d'où pouvait venir l'humidité qui remontait, trouver les sources quoi. Et du coup, ça...
On avait quand même fait un volet énergie subtile.
Voilà, en discutant justement, ça les a intéressés qu'on aille plus loin et puis qu'on fasse une étude vraiment géobio d'énergie subtile sur le lieu. Et donc l'étude a abouti à une étude un peu hydrique, on va dire, enfin recherche de sourcellerie et puis géobiologique en même temps. Mais dans le cadre de la formation, c'est quand même toujours intéressant parce que de toute façon on trouve toujours des choses. Eh bien, je m'appelle Bruno Monnier. J'ai une activité un peu particulière qu'on appelle la géobiologie. Donc, je suis géobiologue. On peut dire autrement aussi, on peut dire que je suis spécialiste en habitat sain. C'est une façon de traduire
ce mot géobiologique est parfois un peu opaque ou porteur de sens un peu ésotérique.
Et après sur le lit, donc c'est très bien. Moi je fais comme ça. Classiquement, je pose, même je enlève ça par exemple. Je pose à la place de l'oreiller et je regarde ce qui se passe. Comme ça en plus l'appareil ne bouge plus. On est à 9, 8,6 volts oreiller à gauche, vous faites pareil oreiller à droite.
La racine de ce métier, on va dire la source, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, c'est le sourcier en fait à la base qui cherchait de l'eau sur un site avant d'implanter une ferme. Toutes les anciennes fermes de nos régions dans les collines sont à des endroits où de l'eau a été trouvée. Sinon, il n'y avait pas de ferme. Bah, les géobiologues, ce sont les enfants et les petits-enfants de ces sourciers anciens qui ont intégré d'autres connaissances en dehors de la présence de l'eau. C'est tous les phénomènes qui vont produire une énergie qui est délétère à notre homéostasie, c'est-à-dire à notre équilibre de fonctionnement physiologique.
Un pic qui peut trop, par rapport à notre recommandation, elle est de combien sur une chambre? 2 volts par mètre sur électrique.
2, 5.
C'est 10 et 5 sur les champs électriques. Moi, et 2 et 0,5 sur les champs magnétiques.
Moi j'y mélange toujours.
Donc on a un petit champ, on sait même pas trop par quoi il est produit parce que rien n'est branché, donc c'est peut-être dans la cloison. Hein.
Tous ces phénomènes très subtils ont été sortis de la pensée rationnelle et scientifique, en gros dans les années 1910-1914. Jusqu'à peu près à cette période, il y avait tout un tas de phénomènes qui étaient étudiés dans les sciences académiques. Hein, à l'Académie des sciences, on étudiait la télépathie, on étudiait la radiesthésie, on étudiait un tas de choses comme ça. Et à un moment donné, il a été dit stop à toutes ces choses et ça a été complètement sorti comme étant du n'importe quoi. Tout ça pour rentrer dans une culture hyper rationnelle, hyper intellectuelle, hyper analytique, pardon. Et qui a sorti complètement l'aspect sensitif des choses pour les décrier en fait. C'est-à-dire que la sensation nous trompe. Et ce qui est vrai aussi, hein, les sensations sont trompeuses. Il y a des effets d'optique qui nous font croire des choses, etc. Donc, mais ça a été quand même une erreur parce que du coup, par ce fait-là, on a tout sorti de ce qui peut être sensitif. Alors que la sensation est quand même primordiale pour notre physionomie justement. Le corps a ses sens et ils ont un sens.
Quand on mesure les champs, là, on mesure les champs dans l'air, en fait, hein, comme ça. Et en fait, les champs électromagnétiques qui sont dans l'air, notamment les champs électriques, les charges électriques ont tendance à s'approcher de nous, en fait, parce qu'elles cherchent à aller vers le sol, en gros. Et comme nous, on est bons conducteurs, elles viennent sur la peau, ça crée de la tension sur la peau. Donc on mesure les champs électromagnétiques dans l'air, mais on peut mesurer la tension à la surface du corps dans une situation particulière. Et comme chaque corps réagit différemment, dans une même situation, on va avoir une tension qui va se former différemment.
Et vous pouvez faire deux mesures sur deux enfants différents.
Oui, exactement.
Et pourquoi dans cette chambre-là?
Parce que les élèves vont peut-être repérer un champ un peu fort à côté du lit.
Au bout de la tête, à l'endroit où il dort, on a mesuré quelque chose un peu plus fort.
Et donc c'est l'occasion de montrer...
Au niveau d'où il dort...
C'est très bien si c'est Mathieu qui dort.
Et du coup, c'est une façon de montrer vraiment ce qui se passe à la surface du corps quand on est soumis à un champ électrique.
Est-ce que tu peux suivre ces élèves dans ta chambre?
On a besoin d'un cobaye.
On va faire une petite mesure sur toi.
De deux cobayes.
Ben en fait, c'est assez simple. Nous, on est arrivés dans cette maison il y a 2 ans. Une maison qui est assez vieille, hein, qui a la partie la plus ancienne doit avoir 300 ans à peu près. La partie où on est là. Et donc, quand on a commencé à travailler avec notre architecte, qui est de la vallée de Die, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait un certain nombre de sources qui passaient sous la maison. Et qu'il y avait d'ailleurs des remontées capillaires dans les murs. La maison était un peu emprisonnée dans un dédale de dalles. Et donc l'archi s'est dit, bon, on va faire faut qu'on fasse un vrai diagnostic pour savoir effectivement où passent les sources pour commencer à réfléchir à des solutions. Elle m'a recommandé de travailler avec Bruno Monnier. Et Bruno, quand il est venu se présenter, il m'a présenté la richesse de son métier. Donc il est dans un premier temps effectivement sourcelier. Et puis... il a commencé à me parler des énergies subtiles. Et là, on est rentré dans une conversation que je n'imaginais pas avoir un jour, en m'expliquant qu'effectivement, il y avait plusieurs types d'énergies subtiles qui pouvaient être un petit peu les traces du vivant ou de l'anciennement vivant dans cette maison. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maison qui est assez ancienne, qui a été énormément occupée. Et puis, sans doute aussi, il me parlait des objets qui pouvaient aussi avoir de ces traces. Et puis après, tout ce qui est des choses qui remontent en fait de la terre, géologiques, comme certaines failles sèches ou même des puits cosmiques. J'ai appris ce que c'était qu'un puits cosmique. Et puis ensuite, un volet beaucoup plus humain, bien que le premier l'ait un petit peu quand même, un autre volet beaucoup plus humain qui est effectivement toutes les ondes électromagnétiques, que ce soit celles qui sont induites par nos prises électriques et tous les fils qui passent dans les murs, et que ce soit toutes celles ensuite qu'on utilise au quotidien, le Wi-Fi, le Bluetooth. Alors on sait bien qu'on parle beaucoup effectivement des ondes radioélectriques ou des champs électriques, donc ça on imagine bien que ça existe, mais effectivement j'ai appris qu'il y avait des choses qui remontaient de l'activité terrestre, et puis après effectivement il est allé sur des choses. J'en parlais tout à l'heure, les puits cosmiques, qui peuvent avoir effectivement des incidences négatives ou positives. J'ai appris ça aussi sur le vivant, que ce soit les êtres humains, les chats, les chiens et les poules. Et puis ensuite, il y a effectivement, je vous disais tout à l'heure, donc là on rentre dans une sphère, on y croit, on n'y croit pas, qui sont tout ce que peuvent laisser ou peuvent avoir laissé le vivant ou les vivants. Alors là, on est dans le champ effectivement des esprits. Moi, directement, dans le rapport, il n'y avait rien qui m'a surpris ou qui m'a interpellé parce qu'on le ressentait. Par exemple, si on prend le cas des deux esprits, ce sont des puits d'énergie négative, c'est-à-dire qu'apparemment, qui vous prend votre énergie et qui la consomme. Après, si vous voulez, pour justement ce travail-là plus spécifiquement, et puis aussi pour annuler ou en tout cas modifier les champs d'énergie, on en revient aux sources. Puisqu'en fait, si vous pouvez effectivement amoindrir, voire annuler le côté négatif d'une source qui crée un champ, en travaillant avec notamment des menhirs. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vous proposent d'installer des menhirs dans la propriété. Alors, on n'est pas du tout dans le menhir. Alors, je ne sais pas, parce que le menhir qu'on a en tête, c'est les gros menhirs qu'on voit à Carnac ou dans Astérix et Obélix. Là, on est vraiment dans des mini-menhirs. Je vais vous emmener en avoir un. Il y en a deux dans la propriété maintenant.
Et on s'attache à ces pierres alors ?
Moi j'ai été un peu déçu par la taille. Hein. Non, je présente, comme je disais tout à l'heure, on s'attend à avoir un obélisque de 2 mètres, comme à Carnac, de 2 mètres de haut. Et puis finalement, c'est une pierre qui fait, une fois qu'elle est enfoncée, qui dépasse de 70 cm. Et voilà, donc est-ce que je suis fier de ma pierre ? C'est quand même une jolie pierre.
Elle est superbe.
Là maintenant, ça fait plus d'un an et demi qu'elle est là. Les herbes commencent à couper autour. Voilà. Et alors elle est vraiment bien placée parce que d'abord, elle a quand même... C'est un petit menhir, hein, mais on voit que c'est un menhir. Et elle est très bien placée, elle. C'est-à-dire que le soleil se couche là. Et c'est très agréable. Des fois, je me suis surpris, en fait, mais sans forcément y réfléchir, à prendre deux fauteuils et à venir prendre l'apéritif chacun à côté de la pierre. Quoi. C'est-à-dire qu'on pose... Voilà, ça m'est arrivé il y a 2 mois, pendant le confinement, et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, tu viens, tu as une propriété qui fait 5000 m², mais tu viens juste prendre l'apéro à côté de cette pierre.
Parce qu'on s'y sent mieux.
On s'y sent bien. Hein. Vous sentez, vous ?
J'aime bien la regarder, ça c'est sûr.
C'est subtil.
Mais il y a une force d'attraction ?
Alors oui, il y a une force d'attraction, notamment quand on l'a posée. On a fait ça en famille, il y avait Bruno qui était là, une personne qui est venue l'aider. Et puis on avait un ami qui était là aussi. On était tous plutôt assez cartésiens, et plutôt assez cartésiens. Mais donc on a... C'est une sorte de cérémonie entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait il met la pierre et on a tous mis notre main, nos deux mains sur la pierre, un petit peu comme ça en étoile. Et en fait, il s'est dégagé à ce moment-là un champ d'énergie, un peu comme quand vous rentrez dans un lieu saint. une église ou quelque chose de très très positif. Vous voyez, c'est-à-dire que vraiment. Alors, ces deux pierres, non seulement effectivement elles interviennent sur, sur la question des sources, mais en fait elles font remonter le niveau énergétique en positif de l'ensemble de la propriété. Et elles libèrent les petits esprits qui peuvent encore être là. Mm-hmm. Donc en fait, il n'est pas intervenu sur les esprits directement, il aurait pu le faire, on aurait pu faire venir un prêtre, un marabout, n'importe quoi en fait, il fallait les enlever. Mais le simple fait en fait de poser ces pierres et de faire remonter comme ça le niveau, ça les a libérés. Parce qu'en fait, ce sont des esprits qui avaient besoin d'aller où ils devaient aller. Quoi. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas.
Physicien, et depuis quelques années, je pose la question aux gens autour de moi, y compris aux scientifiques, c'est quoi la définition de l'énergie ? Moi, je suis incapable d'en donner une. C'est une notion mathématique que je manipule depuis 40 ans dans mes cours, mais c'est un peu comme le temps. Si on me demande ce que c'est que l'énergie, vraiment, m'en donner une définition, secondes de blanc et on est un petit peu embêté quand même. L'énergie, c'est une grandeur mathématique, c'est un outil qu'on utilise pour expliquer un certain nombre de choses. Donc est-ce que cet outil vibre ? Ça n'a pas de sens. Chargé d'énergie vibratoire, là, je... Donc je m'appelle Marc Buonomo. En scientifique ouvert, on va dire, voilà, parce qu'en général, scientifique a toujours une connotation un petit peu péjorative pour le grand public. Mon domaine d'exercice, c'est la physique et l'astronomie. Encore une fois, le vocabulaire, il n'est pas adapté. De toute façon, il n'y a rien qui est mesuré. Alors, mesurer, avec quoi est-ce qu'on mesure ?
Alors, c'est ça la question.
Si c'est avec des appareils scientifiques qu'on connaît, ça ne mesure rien. Il y a un certain nombre d'expériences qui ont été faites. Il y a un groupe de gens à Grenoble qui s'appelle la zététique, qui sont justement intéressés par tous les phénomènes qui sont, entre guillemets, paranormaux, la détection de sources d'eau, magnétiseurs, etc. Donc ceux-là, eux, ils disent, pourquoi pas, et c'est absolument mon attitude, hein, pourquoi pas, allons-y, vous dites que vous faites ceci, cela, allons-y, vérifions. Mais on vérifie avec des appareils qui appartiennent au champ scientifique, on ne peut pas faire autrement. Et dans ce cadre-là, non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les expériences, ces magnétiseurs n'ont pas été capables, par exemple, de détecter une personne derrière un rideau, derrière un paravent. On a fait plusieurs fois l'expérience, en double aveugle, ils ne savent pas s'il y a quelqu'un derrière un paravent. Donc dire qu'un corps qui ressent des vibrations et qu'ils arrivent à le guérir quand ils ne savent même pas s'il y a quelqu'un, ça peut surprendre. Voilà. Mais bon, peu importe, s'ils arrivent à guérir une fois sur deux, une fois sur trois, même une fois sur dix, la personne qui est guérie, elle sera très contente. Mais encore une fois, c'est pas nécessaire que ce soit scientifique pour que ce soit valable. Et pour finir sur la mesure, si c'est mesuré par autre chose que des appareils scientifiques, par exemple, si c'est mesuré par des humains qui disent « là, je ressens quelque chose, mais qu'un autre humain ne peut pas ou un appareil ne peut pas », la discussion s'arrête, en fait. Mm-hmm. Mais ce que je voudrais dire et redire, insister, c'est que c'est absolument pas grave, c'est simplement pas dans le champ scientifique. Et puis voilà, ça n'empêche pas que ça puisse guérir. La science, heureusement, évolue complètement et toutes les théories scientifiques s'écroulent les unes après les autres au fur et à mesure qu'on découvre autre chose. Donc, a priori, on a pu, pendant un certain temps, ranger des choses dans le domaine scientifique puis les retirer après vérification, ou le contraire, ne pas les inclure et puis les mettre un peu plus tard. Ça, c'est l'évolution normale des sciences. Il n'y a pas de souci à ça. S'il y a quelque chose qui n'est pas figé, c'est effectivement les sciences. Peut-être que dans 100 ans, 1000 ans, on aura trouvé une théorie, des éléments de mesure, de fiabilité, qui nous diront, voilà, à chaque fois qu'on fait ceci, on va dans la même direction et on peut intégrer ça dans le champ des forces qui était jusqu'à présent méconnu. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la définition du magnétisme. On aurait demandé ça il y a 2 siècles, on aurait dit, ben non, ce sont des choses différentes, le magnétisme et l'électricité n'ont rien à voir. Et puis on s'est rendu compte un jour, expérience à l'appui, et puis ça n'a pas été du jour au lendemain. Hein. Il a fallu quasiment 1 siècle pour que l'électromagnétisme soit abouti. On dit, ben voilà, en fait, c'est un seul et même phénomène. Donc ça avance, on découvre. Ce n'est pas exclu qu'on découvre ça, mais à la date d'aujourd'hui, la réponse est non. Que tout le monde ne soit pas régi aux mêmes lois, comme je disais au tout début, avec les interactions, et donc aux lois scientifiques, ce n'est pas très gênant. C'est pas très gênant. Dans les rapports humains, il y a des personnes vers lesquelles on va et qui ont ce qu'on appelle des atomes crochus. Là encore, on prend un terme de science. On a un contact. D'autres, à distance, déjà à 10 mètres, on sait que ça ne va pas le faire et que ce n'est même pas la peine qu'on se regarde ou qu'on s'adresse la parole. On ne sait pas pourquoi. Donc il y a bien une communication qui se fait entre nous, êtres humains. Quel est ce type de communication ? On n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas dans le champ scientifique. Sinon, on saurait aujourd'hui, dès à présent, vers qui je peux aller et vers qui je ne peux pas aller. Voilà, il y a plein d'autres champs que le champ scientifique et c'est très bien comme ça. Moi, je trouve que le risque est celui-là aujourd'hui, c'est d'essayer de faire une hiérarchie entre ce qui est science et qui n'est pas, de chercher un cautionnement scientifique alors qu'on critique et au final d'embrouiller tout le monde avec ça. Donc on peut très facilement se faire avoir par ce genre de discours parce qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un en face de soi qui a des arguments bien carrés, bien concrets. Et ce n'est pas ça qu'on cherche. Alors disons-le carrément, ce n'est pas ça qu'on cherche. J'ai trouvé dans le désert, où j'ai vécu pas loin, où je suis allé plusieurs fois, de la rhyolite, une espèce de roche un petit peu verte et qui a été érodée et polie par des millions d'années de grains de sable et de vent. Et cette roche, elle est très agréable à toucher. Je l'ai souvent dans ma poche en hiver particulièrement. Quand je marche avec les mains dans les poches, je la mets dans la main. Et ça me fait beaucoup de bien de la sentir. Je ne vais pas pour autant lui trouver des vertus scientifiques. Et voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est aussi parce que c'était une période de ma vie. C'est là où je l'ai ramassée. C'est le fait qu'elle a des millions d'années. C'est un tas de choses qui, dans mon cerveau, ont un impact. Et entre le corps et le cerveau, quand on voit comment on arrive à guérir certaines maladies ou comment on arrive à les contracter aussi, il y a un tas de choses qu'on ne comprenne pas, ça me paraît une évidence.
Subtil, un documentaire de Pauline Lemaire Desmarais. Auteur associé Mehdi Aoudig pour Radiola. Merci à Thierry, Bruno et Jérôme d'avoir répondu à mes questions. Merci également à Sylvette Allard pour ses mystérieuses ondes Martenot.